Père et Père en Saint-Dominique. Cette année, la fête de Saint Thomas d'Aquin tombe un premier samedi du mois, ce jour où nous honorons spécialement le cœur immaculé de Marie. Et c'est l'occasion pour nous de voir comment Saint Thomas honorait Marie immaculée. Parce que on entend souvent que Saint Thomas était opposé au dogme de l'Immaculée Conception. Il est vrai qu'on trouve quelques phrases qui nous surprennent aujourd'hui. À un moment, Saint Thomas dit « La Sainte Vierge a contracté le péché originel » ou qu'elle a été purifiée du péché originel avant sa naissance. Mais qu'en est-il vraiment? Et c'est une question importante, il y va de l'honneur de Saint Thomas d'Aquin, et même il y va de l'honneur de l'Église elle-même, qui a tant de fois, par la bouche des papes, loué la doctrine de Saint Thomas, la déclarant exempte d'erreur et la proposant comme un rempart contre toute hérésie. Alors, voyons d'abord le dogme de l'Immaculée Conception tel qu'il a été défini par l'Église au XIXe siècle. Je cite « La bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée exempte de toute souillure de la faute originelle. » Dans cette définition, il y a quatre éléments. Nous allons les voir un par un en les comparant à ce qu'en dit Saint Thomas. Alors d'abord, la première chose que nous voyons dans cette définition, c'est que c'est la personne de la très sainte Vierge Marie qui a reçu ce privilège. Et donc, cette grâce n'a pas pu être donnée avant que la très sainte Vierge Marie ne soit une personne. Cela nous paraît évident, mais cela n'était pas évident à l'époque de Saint Thomas. La question était disputée. Certains théologiens pensaient qu'il y a eu peut-être une petite parcelle de la chair d'Adam qui avait échappé à la malédiction de nos premiers parents et qui avait été transmise de génération en génération jusqu'à la très sainte Vierge Marie. D'autres parlaient d'une semence purifiée avant la fécondation ou de l'embryon purifié avant de recevoir l'âme humaine et donc avant de devenir une personne. Car il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Saint Thomas, on enseignait que le corps du bébé dans le sein de sa mère était formé et puis, plus tard, recevait une âme humaine dotée de raison. Le mot « conception » pouvait avoir plusieurs sens ou regrouper plus ou moins de choses. Il pouvait désigner l'une ou l'autre de ces étapes de formation dans le sein de la mère. Mais Saint Thomas, de son côté, défend la vérité en insistant sur le fait que la Sainte Vierge n'a pas pu être sanctifiée, rendue immaculée, avant de recevoir une âme humaine, quel que soit le moment où cette âme est reçue. Alors, pourquoi devait-il y insister tant? D'abord, c'est surtout que la grâce ne peut être reçue que dans un sujet doté de raison, une semence ou un embryon sans âme humaine ne peut pas recevoir la grâce. Mais aussi, si la très sainte Vierge Marie avait été sanctifiée avant d'être une personne, elle n'aurait pas été rachetée personnellement par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous amène justement au deuxième élément de cette définition. L'Église a défini que la Sainte Vierge a été sanctifiée en vue des mérites de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a été rachetée. Alors pour comprendre, il faut savoir que le verbe ne s'est incarné que pour libérer le genre humain du péché. La Sainte Vierge, faisant partie du genre humain, devait elle aussi être libérée du péché, même si elle en sera libérée d'une manière beaucoup plus élevée, beaucoup plus complète que tous les autres hommes. Mais là aussi, à l'époque de saint Thomas, il y avait des erreurs. Certains théologiens qui pensaient que le Verbe se serait incarné même si Adam n'avait pas péché, ces théologiens étaient donc naturellement amenés à croire que la mission de la très sainte Vierge Marie échappait elle aussi à toute pensée de péché, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une immaculée conception, même si Jésus n'était pas mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés. D'autres conjecturaient que la Sainte Vierge avait une sorte de justice originelle, comme Ève avant le péché. Mais saint Thomas, lui, il défendait énergiquement la doctrine selon laquelle la très sainte Vierge Marie a été sauvée et que seul notre Seigneur Jésus-Christ et le Sauveur n'ayant pas besoin d'être sauvé. Autrement dit, la Sainte Vierge avait la dette du péché originel, c'est-à-dire qu'en tant que fille d'Adam, elle aurait dû avoir le péché originel, à moins de recevoir une grâce spéciale qui l'en préserve. Alors aujourd'hui, les théologiens distinguent clairement entre cette dette du péché originel et l'idée du péché originel proprement dit. Mais à l'époque de saint Thomas, le terme péché originel pouvait inclure plus ou moins cette idée de dette. Et c'est pourquoi saint Thomas et d'autres auteurs reconnus comme les défenseurs de l'Immaculée Conception pouvaient parler d'un certain péché originel, entre guillemets, en parlant de la très sainte Vierge Marie, parce qu'il parlait de cette dette. Tout comme le mot conception, le terme péché originel n'avait pas encore de signification fixe et précise. Il faut faire très attention, quand on lit les textes de l'époque, à chercher le sens de ce qu'on disait et à ne pas s'arrêter aux mots et plaquer sur ces mots la signification que nous avons aujourd'hui, 8 siècles plus tard. Alors, le troisième élément de la définition de l'Église, c'est que la Sainte Vierge a été exempte de toute souillure du péché originel. Si saint Thomas admettait, comme il se doit, la dette du péché originel chez la très sainte Vierge Marie, il en excluait absolument tout ce qui peut être considéré dans le péché originel comme une souillure. Et là, les textes sont très clairs. Il dit, la Sainte Vierge a été pure de tout péché originel et actuel. Elle n'a pas été seulement, dans un autre endroit, elle n'a pas été seulement pure du péché actuel, mais aussi du péché originel, ayant été purifiée par un privilège spécial. Et il dit ailleurs, dans la bienheureuse Vierge, il n'y a eu aucune obscurité de péché. Elle a dépassé les anges en pureté. Etc. Il y a beaucoup d'autres textes qu'on pourrait citer. Mais alors, en quoi consiste cette souillure du péché originel dont la Sainte Vierge a été préservée? C'est d'abord l'état de culpabilité, donc le fait d'être l'ennemi de Dieu et non pas son ami. Mais c'est aussi le désordre dans l'âme qui résulte de ce qu'on appelle le foyer du péché. Ce foyer du péché n'est autre chose que la simple absence du péché originel. Adam et Ève, avant le péché, étaient dans un état de justice originelle qui empêchait les passions d'agir contre la raison. Par le péché, ils ont perdu cette justice originelle pour eux-mêmes et pour nous. Désormais, les hommes ont dans l'âme un foyer du péché, qui est cette absence de justice originelle, qui fait que les passions puissent se révolter contre la raison. La Sainte Vierge n'avait pas la justice originale. Donc, Saint Thomas admet, bon, même si ce n'est pas son opinion, il admet que c'est possible que la Sainte Vierge aurait pu avoir ce foyer du péché. Mais il dit qu'en ce cas-là, elle avait une grâce bien supérieure à la justice originelle qui neutralisait ce foyer du péché, rendant impossible la révolte des passions et donc rendant impossible toute idée de désordre et de souillure. Et il faut remarquer, comme le fait le Père Thérien, en cela, Saint Thomas affirme plus que certains auteurs modernes, même depuis la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, la quatrième chose que nous trouvons dans cette définition de l'Église, c'est que la Sainte Vierge a été immaculée au premier instant de son existence. Des quatre éléments de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, c'est le seul que Saint Thomas ne déclare pas explicitement, mais il ne le nie pas. Bien plus, tous les principes qu'il pose, toutes les explications qu'il donne mènent à cette conclusion et n'ont pas de sens autrement. Rappelons-nous encore une fois qu'à l'époque, le vocabulaire théologique était encore un peu flou et certaines déclarations risquaient d'être comprises dans un sens erroné. Et c'est pour la même raison qu'on ne célébrait pas encore à Rome la fête de l'Immaculée Conception, car certains théologiens donnaient à cette fête une signification erronée. Dans les passages où Saint Thomas dit que la Sainte Vierge a été sanctifiée après la réception de son âme humaine, il ne parle pas d'une succession chronologique, comme si elle avait reçu une âme humaine et puis, un instant après, elle a été sanctifiée. Non, il parlait de ce qu'on appelle une postériorité de nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette distinction est très courante dans la théologie. Parce que dans la théologie, on est souvent amené à parler de phénomènes qui arrivent en même temps, dans un même instant, mais dont certains aspects doivent être compris avant d'autres, les uns après les autres, à cause de la faiblesse de notre intelligence. Donc, un exemple assez typique, c'est la Sainte Trinité. Il est évident que les trois personnes de la très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ont toujours existé depuis l'éternité. Il n'y a pas une personne qui existait avant une autre. Et pourtant, nous devons dire la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, pour avoir une intelligence correcte de ce mystère. Et ici, c'est pareil. Avant de parler de la sanctification de la Sainte Vierge, il faut d'abord avoir en tête qu'elle a reçu une âme humaine, comme nous avons expliqué au début. Donc, il faut voir les concepts les uns après les autres, mais ça ne veut pas dire que cette sanctification est arrivée chronologiquement après la réception de l'âme. Et même un auteur comme Cajetan, lui-même pas très favorable à l'Immaculée Conception, explique que Saint Thomas n'a jamais voulu affirmer dans ses passages que la Sainte Vierge n'a pas été sanctifiée dans le premier instant de son existence. Alors, pour résumer et conclure, quand on regarde les écrits de Saint Thomas objectivement, selon le sens des mots voulus par Saint Thomas lui-même, on est obligé de constater que Saint Thomas n'était nullement opposé au dogme de l'Immaculée Conception tel qu'il a été défini par l'Église. Quand il parlait de la dette du péché originel encourue par tous les hommes sauf notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Thomas peut dire que la Sainte Vierge a contracté le péché originel. Et quand il parlait de la souillure du péché originel, il dit qu'elle a été préservée du péché originel. Donc on voit que non seulement il n'a pas été opposé à ce dogme, mais c'est justement sa doctrine et ses explications qui ont été retenues par l'Église, de préférence aux autres théologiens que saint Thomas combattait. Donc ce sont des explications de saint Thomas qui ont été retenues pour la définition de ce dogme au XIXe siècle. Parce qu'on voit que chez saint Thomas, on trouve précisément les quatre éléments de cette définition. Donc, surtout, vous, mes pères et frères en Saint-Dominique, nous qui nous glorifions de garder et d'approfondir l'enseignement et la doctrine de saint Thomas d'Aquin, nous pouvons tranquillement honorer la Sainte Vierge avec lui aujourd'hui et ne pas avoir peur des calomnies qu'on peut lancer contre le Saint Docteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.